Les enjeux internationaux.
Voici 100 Twitter, Thierry Garcin.
Absolument. Bonjour, rebonjour Guillaume Erner. Donc, l'Afrique, notre invité Hamzat Boukhari Yabara, historien et lecteur associé à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous. On reste sur le thème de la démocratie, de la démocratisation, puisqu'il y a tout un train d'élections en Afrique subsaharienne, le Cap-Vert, le Congo-Brazzaville, le Bénin, le Niger, la Tanzanie, un référendum au Sénégal, à la fin de la semaine, la République centrafricaine, etc. Alors, on va essayer de voir les échecs et les réussites de cette dite démocratisation. Nous sommes 26 ans après le discours de La Baule du président Mitterrand, qui exhortait à la démocratisation, suivi l'année suivante, on oublie toujours, du discours presque inverse de Chaillot. Et quelle est la situation en Afrique? Il faut évidemment relativiser cette notion de démocratisation. Il faudrait d'abord passer par la case préalable de l'État, dont la notion ou l'existence est souvent absente ou évanescente de la réalité africaine. Et puis la démocratie suppose la mise en œuvre simultanée d'un certain nombre de conditions préalables, une dizaine, une douzaine. Et puis dernière chose dont on n'a pas attiré gloire, c'est que dans l'Union européenne elle-même, l'État de droit n'est plus respecté par certains pays de l'Est ou d'anciens pays de l'Est. Quel regard générique portez-vous sur cette question de démocratisation en Afrique, Hamzat Boukhari Yabara?
Eh bien, déjà, je crois qu'il y a un premier paradoxe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'élections en Afrique ces derniers temps, même s'il faut se rappeler que dans les toutes premières années d'indépendance, il y avait des élections. On a suivi ensuite un long moment de parti unique avant la rouverture donc au multipartisme dans les années 90. Et là, dans ces années 2000, on voit effectivement un train d'élections, on voit des alternances, des réussites, mais également des élections qui, dans un certain nombre de cas, sont souvent des simulacres. Et on a le sentiment que la démocratisation s'est faite un peu sur le modèle d'un marché avec une offre et une demande entre des dirigeants politiques et des électeurs. Et on ne voit pas nécessairement cette dimension sereine, rassénérante des élections, mais davantage des situations crisogènes qui font que, paradoxalement, donc les élections sont souvent des moments de crise sur le continent africain, alors qu'elles devraient au contraire être des moments d'apaisement et de redistribution du pouvoir, parce qu'on a souvent des régimes qui jouent leur vie sur ces élections et qui n'arrivent pas nécessairement à se reconvertir. Donc c'est toute la problématique du statut du pouvoir et du statut de l'opposition qui se pose souvent à ces moments-là.
Oui, et puis effectivement, les élections dites libres ne sont qu'un des éléments de la démocratisation. Il y en a bien d'autres, dont d'ailleurs, on l'oublie là aussi souvent, l'alternance, parce que tant qu'il n'y a pas eu alternance, il n'y a pas eu réelle démocratisation. Alors, en ce qui concerne ce qui s'est passé d'ailleurs hier dans un certain nombre de pays, alors c'est très intéressant parce qu'on voit que par exemple, très discuté pour le scrutin du Niger. Au Congo-Brazzaville, alors, toutes les radios, les télévisions, je crois, Twitter, justement, les réseaux sociaux, tout ça a été fermé, au moins on est entre soi. Et puis, alors, à l'inverse, un référendum au Sénégal qui a une grande habitude quand même du pluralisme. Et puis, là aussi, une chose positive, c'est le Bénin, où il y a, je crois, l'ancien premier... Non, c'est pas l'ancien premier ministre, c'est lui qui a perdu, mais il y a un homme d'affaires, si mes souvenirs sont bons, dont le nom échappe, qui a gagné, et celui qui a perdu a reconnu sa défaite. Donc le paysage est assez varié.
Oui, effectivement, le paysage est assez varié. Comme vous le soulignez, le Bénin et le Sénégal ont plutôt des bonnes traditions, entre guillemets, démocratiques, et donc cela s'est confirmé une fois de plus, avec une alternance au Bénin, puisque c'est l'opposant, entre guillemets, qui l'a emporté sur le candidat du parti au pouvoir. Le Niger et le Congo, on savait que ce serait compliqué. Le Niger, ça renvoie une fois de plus au statut de l'opposition, puisque le candidat adverse au président sortant était dans l'incapacité de mener campagne. Au Congo, c'est un simulacre de démocratie. Mais je pense aussi qu'il faut sortir du seul contexte des pays francophones, puisqu'on voit que dans les pays anglophones, c'est également clivé. Le Nigeria nous avait surpris l'an dernier avec des élections qui étaient très bien déroulées, avec un système biométrique qui avait réduit les corruptions. Et en revanche, un pays comme l'Ouganda a récemment fait des élections où on avait vu que l'opposition avait tout simplement été braquée par le régime au pouvoir qui avait confisqué la victoire.
Et puis alors, à l'extrême, pour les pays anglophones, on peut citer le cas du Zimbabwe, parce que là, c'est vraiment un cas d'école, mais qu'on retrouve d'ailleurs d'une certaine façon dans les pays anglophones, avec ces caciques, ces grands crocodiles qui restent là pendant quelques dizaines d'années.
Oui, les pays qui ont connu des guerres de libération, le Zimbabwe, l'Angola, ont souvent connu par la suite des régimes très longs. On peut également citer d'une certaine manière l'Afrique du Sud, même si là c'est différent, c'est plus au sein d'un parti politique, l'ANC, que se joue la présidence du pays. Et donc ça renvoie aussi à la nécessité d'avoir sur le continent africain des partis politiques qui font vivre la démocratie en interne. Or très souvent, les élections sont personnalisées. C'est un homme qui joue un homme ou un clan, qui joue tout simplement sa survie sur les élections et qui veut s'accrocher coûte que coûte au pouvoir, ce qui donne souvent des visions à court terme, une immédiateté du pouvoir, alors que dans le même temps, ce sont des régimes qui durent très longtemps. Et donc ça aussi, ça renvoie au fait que le calendrier électoral en Afrique fait que ce n'est que très souvent quelques mois avant les élections qu'on voit se réveiller une certaine opposition. Donc ça aussi, ça renvoie à la nécessité de faire vivre la démocratie dans la durée et dans le quotidien et d'inclure également donc les populations dans ce jeu-là.
Alors la démocratie à l'occidentale, est-ce que c'est vraiment une panacée, un remède universel? Je voyais il y a quelques jours, environ une dizaine de jours dans Le Monde, un long entretien avec la géographe Sylvie Brunel et qui dit l'idée, alors je la cite, l'idée que 51% l'emporte sur 49% ne veut rien dire dans ces sociétés extrêmement hiérarchisées et codifiées. Est-ce que vous corroborez cette opinion?
Non, je serais plutôt d'accord parce que dans le continent africain, on considère que tout le monde doit jouer son rôle dans les sociétés africaines et le système de représentation pose un souci parce que celui qui gagne avec 51% gagne tout. Et très souvent, celui qui perd même avec 49% est totalement exclu du champ politique, ce qui crée effectivement des scissions. On l'a vu dans un certain nombre de cas. Et je crois qu'il faut repenser donc les systèmes de représentation, repenser également l'histoire du pouvoir. Et je crois que malheureusement, sur le continent africain et peut-être même ailleurs, on n'apprend pas suffisamment des erreurs du passé et qu'il y a un décalage de plus en plus criant entre les forces sociales, les forces intellectuelles et les systèmes institutionnels. Donc il faudrait effectivement repenser, je pense, le marché, le système, le modèle démocratique sur le continent africain avec des élections qui souvent sont très coûteuses. Donc derrière, il y a aussi souvent des enjeux d'argent énormes. Et je crois que tout cela doit être mis sur le tapis et reconstruit de manière plus harmonieuse, plus participative.
Et puis il y a le cas évidemment en Afrique tout à fait patent, c'est celui des États biethniques, mais avec une très grosse majorité et une très petite minorité. C'est le cas du Rwanda et du Burundi. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, ça soulève un problème arithmétique, parce que si une ethnie immensément majoritaire vote dans tel sens, elle aura toujours le pouvoir. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs au Rwanda, une ethnie immensément minoritaire de s'agripper au pouvoir.
Oui, là aussi, je crois que la dimension ethnique est à manier avec beaucoup de prudence, parce que les élections déclenchent souvent une logique du ressentiment, oui, voire du bouc émissaire. Et très souvent, je crois qu'il faut remettre du politique dans tout cela et donc reprendre conscience de l'importance de l'intérêt général. L'État en Afrique doit se construire sur l'intérêt général. Il doit également, je pense, inclure une dimension transnationale. Dans le cas européen, toutes les élections nationales prennent en compte l'aspect européen, l'harmonisation de l'Europe. Et dans le cas du continent africain, je crois aussi que les élections doivent sortir du microcosme ethnique et englober au moins le cas sous-régional.
Merci beaucoup de cet éclairage, Hamzat Boukhari Yabara. Vous êtes historien, docteur associé à l'École des hautes études en sciences sociales. On peut renvoyer aux enjeux internationaux de mardi dernier sur les mouvements citoyens avec notre invité Francis Patindé. Et puis bien sûr franceculture.fr pour écouter l'émission. Demain, on parlera non pas tellement de Cuba, mais des États-Unis et de l'Amérique latine pour faire suite à votre matinale, Guillaume.
Qui sera consacré effectivement à Cuba.